Ben, il y a un petit goût de reprise quand je me vois comme ça avec vous. La différence, c'est bien entendu que je suis un peu bronzé et qu'on est à la mi-août et qu'on reprend les lives aujourd'hui et que ça fait bien plaisir. Je vais d'abord commencer par dire bonjour à tout le monde et un petit remerciement. J'ai été très touché du fait que vous ayez suivi avec autant d'attention ce que je vous racontais pendant mon voyage en Italie et j'ai essayé de vous faire visiter en même temps que moi les endroits où j'allais. J'ai pas trop parlé de nourriture, sauf quand j'ai posté de temps en temps certains aliments. Mais pourtant, j'aurais pu vous faire quelques détails supplémentaires. C'est ce que je vais faire ce soir, et vous détailler ce qu'était la nourriture italienne. En premier lieu, je voudrais répondre à une phrase qu'on entend assez régulièrement, c'est-à-dire que les gens disent toujours en Italie, on mange beaucoup de pâtes, mais on ne grossit pas. Je suis pas vraiment d'accord avec cette phrase. On peut grossir ou ne pas grossir dans tous les pays où on se trouve. Ça va vraiment dépendre de plusieurs choses. D'abord, de la façon qu'on va avoir de composer un repas, un peu comme on fait déjà ici. Et ensuite, la deuxième façon, ça sera quel type d'aliment on va choisir et quelle quantité on va choisir. En Italie, évidemment, la principale caractéristique, ça va être deux choses. Ça sera les pâtes. La deuxième caractéristique, ça sera les fromages. Je vais prendre ces deux catégories les unes après les autres. Je ne peux pas parler de tout. En ce qui concerne les pâtes, ma réflexion, au bout d'un moment, elle a été un peu, pas ironique, mais enfin, je veux dire, ça reste quand même à chaque fois de la semoule de blé dur. C'est pas autre chose. Que vous les mangiez sous forme de spaghettis, de taglioni, de tagliatelle, de conchiglioni, de spaghettis, peu importe. En fait, ça reste toujours de la farine de blé dur. Et cette farine de blé dur, elle va être accommodée avec une recette. Donc finalement, les pâtes que nous mangeons ne sont pas très différentes de celles qu'on nous sert en Italie. La vraie différence, elle réside en deux choses. Premièrement, le mode de cuisson. Apparemment, en Italie, on ne mange pas les pâtes comme on les mange en France. Elles sont toujours un peu plus croquantes sous la dent. C'est ce qu'ils appellent la cuisine al dente. Ça a un avantage, cette cuisson al dente. C'est qu'en fait, vous savez, quand on cuit des sucres lents, à l'intérieur des sucres lents, on va dégrader une partie de ces sucres lents. Ils vont se dégrader en sucre rapide. Et c'est vrai que l'absorption du sucre, elle ne sera pas la même. Donc, c'est vrai que la cuisson al dente, elle est meilleure. Ça serait assez simple. C'est peut-être ce que nous allons faire, nous, ici, avec mon épouse à la maison. C'est qu'on va réduire le temps de cuisson qu'on utilisait habituellement en se référant à l'indicateur qui était sur la boîte du fabricant. En termes de qualité, j'ai pas franchement observé une énorme différence. Bien sûr, quand ce sont des pâtes fraîches, et que la maman, elle les a préparées à la cuisine, ce qui m'est arrivé dans un restaurant. Oui, bien sûr, elle va être très différente. Mais la raison, c'est quoi? C'est qu'en fait, ces gens mettent en général beaucoup moins d'eau, mais ils mettent beaucoup plus d'œufs. Quand vous achetez des pâtes aux œufs frais en supermarché, vérifiez sur la liste des ingrédients, vous allez voir que la quantité d'œufs à l'intérieur n'est pas énorme. Elle dépasse rarement les 2, maximum 3%. Donc, mais quand vous faites des pâtes maison, vous pouvez y aller et mettre des œufs autant que vous voulez. Et bien sûr, pourquoi le goût va être meilleur? Simplement parce que l'œuf est un produit un peu plus gras, parce qu'il est plus moelleux, parce qu'il a un goût, il va rajouter un goût aux pâtes. Et donc, quand vous faites des pâtes maison, ça se fait maintenant. Il y a des machines pour faire des œufs, il y a des appareils quand vous pétrissez à la main, qui vous permettent de faire des pâtes maison. Ben, quand vous faites des pâtes maison et que vous mettez moins d'eau et plus d'œufs, les pâtes sont plus goûteuses, elles sont plus riches, elles ont probablement un intérêt, en tout cas gustatif, plus important. La deuxième chose, on parlera après des affaires psychologiques. La deuxième chose, c'est les modes d'assaisonnement. En fait, les pâtes, mais on l'a souvent dit ici, les pâtes chez eux, c'est en fait une composition. Ça veut dire que, par exemple, ils adorent faire des pâtes au coquillage, vous le savez probablement, ils n'ont pas besoin d'utiliser beaucoup de matière grasse. Nous, quand on fait des pâtes, mea culpa, à la maison, très souvent, la qualité des pâtes, elle va être amplifiée par la qualité de la sauce tomate qu'on va mettre, par la crème fraîche qu'on va mettre, etc. J'ai pas rencontré ça. J'ai jamais rencontré dans tous les restaurants, et j'ai fait beaucoup de restaurants en 15 jours. Vous imaginez bien que ça fait 30 restaurants. J'ai pas rencontré beaucoup ça. La plupart du temps, les pâtes étaient un élément de la composition du plat. Il n'y avait pas autant de matière grasse, sauf une fois dans un restaurant à Rome où là vraiment ils ont chargé en graisse, mais je pense que c'était parce qu'ils avaient rajouté des truffes, ça permettait d'amplifier le goût des truffes sans mettre trop de truffes. J'ai pas rencontré de produits extrêmement gras. Donc ça veut dire que c'est notre mode de cuisson des pâtes qui change d'eux et qui fait que les pâtes là-bas nous semblent meilleures. Et que deuxièmement, dans notre façon d'utiliser les pâtes, l'ingrédient qu'on rajoute avec les pâtes, il n'est pas limité comme nous on le fait en France avec les œufs, le lardon, la bolognaise. Voilà, ils mettent plein de choses à l'intérieur. Donc ça, c'est la caractéristique principale. J'en ai fait le tour, j'ai adoré manger les raviolis, ils étaient mieux farcis qu'en France, ricotta, ragoût de bœuf, etc. C'était intéressant. ça devenait plus riche dès que c'était farci. C'est un peu comme les céréales du petit déjeuner. Quand vous prenez des céréales simples, c'est un produit céréalier comme les autres, les pâtes, c'est un produit qui est tout à fait convenable. À partir du moment où vous commencez à farcir les céréales, l'exemple type, ça a été les céréales Trésor que les enfants adorent. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de chocolat de mauvaise qualité que de produits céréaliens à l'intérieur. Ben, le produit, il est tout de suite beaucoup plus riche. Donc, les raviolis là-bas, c'était essentiellement ricotta et pas du tout des trucs comme on voit dans les supermarchés. Je me laisse tenter de temps en temps de la marque Gino da Cervi. Enfin, c'est toujours un nom italien, c'est pas toujours un italien, mais c'était des raviolis qui étaient farcis. Ici, en France, quand ils sont farcis, quand c'est sur le mode industriel, c'est pourri. Ça veut dire qu'ils mettent de la fécule de pomme de terre, ils mettent des ingrédients dans tous les sens pour essayer de donner un peu de goût qu'il n'a pas, et puis ils rajoutent à peine du fromage. Au niveau des fromages, il y a quand même que certains fromages qui dominent. Les fromages qui dominent le plus, ça reste bien sûr en priorité les fromages classiques qu'on connaît, burrata, mozzarella. Curieusement, la mozzarella chez eux, elle est plus dure que nous. Elle ressemble plus, nous, notre mozzarella, elle ressemble plus à leur burrata. Et la burrata, ils s'en servent, mais pas d'une façon excessive comme nous. Et elle n'a pas tout à fait la même consistance, probablement parce qu'elle est moins industrielle, qu'elle est plus artisanale. Ce sont des fromages qui restent quand même, assez curieusement, pas très riches. Ça veut dire que la mozzarella, on tourne aux alentours des 300 calories pour 100 grammes. Et la burrata, contrairement à ce qu'on pensait, alors qu'elle est faite avec la crème de bufflone, mais comme elle est plus hydratée, c'est la raison pour laquelle elle est un peu moins calorique. On utilise en général les mêmes laits qu'en France, vache, brebis, chèvre. Selon le lait qu'on va utiliser, on va obtenir un fromage différent. Le fromage qui m'a paru le plus intéressant, en tout cas, ça a été le mascarpone. Alors, deux problèmes. D'abord, le mascarpone, c'est un fromage gras à pâte fraîche. C'est-à-dire qu'il est fait en réalité avec la crème de lait de vache. Voilà pourquoi c'est un produit qui est extrêmement riche en calories. En général, il chauffe la crème. Je me suis fait expliquer la recette par un des cuisiniers. Il chauffe la crème à 100 degrés et ensuite, ils vont ajouter du citron ou du vinaigre. Et une fois que c'est ça, ils vont le cailler, ils vont l'égoutter et ils obtiennent une espèce de pâte qu'ils vont conserver sous forme de mousseline au réfrigérateur. C'est un fromage très, très riche. C'est probablement le fromage italien le plus riche. Il sert principalement à la composition du tiramisu. Quand on mange en Italie par rapport à quand on mange en France, on n'a pas la même façon, on n'a pas le sentiment qu'on mange en Italie. En France, on commande toujours à peu près les mêmes choses. En Italie, il y a quand même une grande variété. L'autre chose qui m'a marqué, c'est que la composition de repas, en tout cas, la composition de repas, en tout cas, elle est présentée comme ça en Italie. C'est antipasti. Donc, c'est, en fait, antipasti, c'est presque l'apéro. Donc, c'est quelque chose de petit qu'on va vous servir à manger. Derrière, on va dire le primer piatti, c'est-à-dire le premier plat. En général, c'est là où on va trouver les plats. Et après, le second plat on va retrouver les grands classiques, le poisson, la viande, etc. Les cartes de restaurants étaient moins fournies qu'en France. La variété alimentaire était moins importante. Elle est très bonne, mais elle était moins importante. Il n'y a ni critique, ni compliment. Je veux dire, ce sont deux clients. La cuisine française et la cuisine italienne font partie des deux cuisines suprêmes dans le monde. Bien sûr, il y a les Japonais, il y a plein d'autres gens, mais ce sont deux cuisines extrêmement raffinées. Quant à la pizza, c'est pas franchement le truc des Italiens. La pizza, c'est le sandwich français. Et d'ailleurs, souvent, quand je vous ai parlé des pizzas, je vous ai dit qu'en fait, une pizza, c'est un sandwich. C'est du pain à l'intérieur duquel on va mettre de la tomate, du thon, du fromage, du jambon, des champignons, ce qu'on veut, mais c'est un sandwich. Et ben pour les Italiens, c'est la même chose. La seule fois où je me suis fait attraper pour la pizza, c'est quand on a essayé de me faire croire que la pizza allait très bien avec le champagne. C'est ce que m'avait vendu un restaurateur en me disant « ouais, c'est le dernier truc à la mode ». Effectivement, j'ai tapé ça sur Internet et j'ai retrouvé un article d'un journal français dans lequel on disait « c'est le dernier truc branché », mais pas du tout, ça va pas du tout ensemble. La pizza, on en a parlé mille fois, je ne vais pas vous rééditer ça. Ce soir, j'étais là pour faire un retour avec vous, pour répondre à vos questions et je continuerai en disant que vous avez répondu de façon incroyable à mon Instagram quand je vous ai demandé de me raconter vos histoires psychologiques. Ça veut dire que depuis quelque temps, je me suis dit que j'allais écrire un bouquin sur l'expérience que j'avais des histoires psychologiques de perte et de prise de poids. Parce que la prise de poids, elle a forcément toujours, quand elle n'est pas voulue ou quand elle n'est pas génétique, elle a toujours une résonance psychologique. Alors moi, j'ai vécu beaucoup d'histoires dans mon bureau. Ça veut dire des histoires incroyables que vous lirez dans un livre qui sortira dans quelques mois. Mais j'avais envie de traduire les histoires que vous alliez me raconter, vous. Et vous avez vachement bien joué le jeu. Je veux dire, j'ai eu des histoires que j'ai reprises quasiment intégralement. Je ne donne pas les noms, mais j'ai des histoires, j'ai recopié le texte que vous m'avez envoyé sur Instagram. Et d'ailleurs, je vous incite à recommencer. Moi, j'ai identifié un certain nombre de choses dans ces histoires psychologiques. J'ai identifié les dépressions cachées, la vraie dépression, les variantes de dépression, les familles, la douleur des familles, l'amour ou le non-amour, les traumatismes sexuels, la grossesse, la soumission, le manque, et aussi les associations d'images. C'est-à-dire, j'ai raconté des histoires, vous allez voir, qui vont vous intéresser. Les associations d'images, c'est-à-dire quand on a mélangé dans sa tête des images qu'on a collées à des souvenirs alimentaires, des souvenirs psychologiques, traumatisants ou non, on a fait un gloubi-goulba de tout ça et derrière on a ressorti une image qui n'est pas forcément bonne pour nous, mais qui peut nous détruire dans la mesure où la nourriture va intervenir pour nous servir comme un médicament. Donc si vous voulez bien continuer à m'envoyer ces histoires, allez-y, vous pouvez le faire. Je vois qu'il y a toujours le ballon du pigeon que j'ai utilisé pour empêcher les pigeons d'aller sur la terrasse qui est derrière moi, là, juste ici. Ça me fait toujours rigoler. Maintenant, ça fait une dizaine de minutes que je bavasse avec vous. Je suis là pour répondre à vos questions. Et encore une fois, merci. D'abord, vos compliments, j'ai adoré. Merci à tous ceux qui se sont inscrits sur Savoir Maigrir. J'ai été très étonné pendant le mois d'août. Vous aviez sur Savoir Maigrir pour vous inscrire. Probablement au fait que il y a au fait que beaucoup d'entre vous disaient « mais oui, il faut y aller, c'est vachement bien », etc. Donc, ça m'a flatté. Donc, on a le droit d'avoir son petit ego soi-même. Hein. Alors, je commence aujourd'hui avec les questions. Là, ce n'est pas une question. C'est Fabien qui me dit qu'elle a fait mon régime. « Je suis tes conseils, j'ai perdu 23 kilos. Je continue à me motiver. » C'est très bien. Hein. « Avec les douleurs, je mange mal. Que faire ?» Rien. Il faut attendre simplement que la douleur s'arrête. Hein. « Bonsoir docteur, j'ai perdu moins 37 kilos, donc je suis à 88 kilos en bientôt 3 ans. » Alors voilà, le prochain chapitre de l'ouvrage que je suis en train d'écrire, ça veut dire, une fois que j'aurai fini les histoires psychologiques, et alors on fait quoi ? Ça veut dire que la problématique des histoires psychologiques, c'est qu'on trouve de temps en temps le sujet qui a été à l'origine du fait qu'on se soit servi de la nourriture pour se consoler, pour des tas d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a grossi ? Alors bien sûr, on passe par le régime, mais comment on gère la difficulté de d'avoir vécu cet événement ou de ne pas savoir l'interpréter. Bonjour Béat, bonjour Blondie, j'ai vu que vous avez passé tous de bonnes vacances. Frédéric, bonsoir, comme beaucoup financièrement aujourd'hui c'est compliqué, oui je sais, hein, partout, je viens d'aller voir ma fille aînée, la radiologue, qui m'a raconté être parti aux États-Unis et avoir été débordé financièrement par le coût de la vie. C'est-à-dire m'avoir raconté qu'aux États-Unis, elle achetait des petites bouteilles d'eau à 6 dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 6 euros, ce qui fait que ça leur a posé un problème parce qu'au bout d'un moment, ben, il n'y avait plus de sous. Hein. Alors, je reviens à la question de Frédéric. Que conseillez-vous concernant les protéines ? Plutôt diminuer les quantités et privilégier la qualité ? 80 grammes au lieu de 120 grammes dans le programme ou inversement? Non, je pense que tu dois continuer à privilégier la qualité et diminuer légèrement les quantités parce qu'on n'est pas en carence de protéines dans notre pays en utilisant les protéines les moins chères, c'est-à-dire, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire les œufs qui restent quand même un produit pas cher, c'est-à-dire les grandes quantités, par exemple en fromage blanc ou en yaourt, c'est-à-dire n'achetez pas par poids individuel, vous payez de l'emballage, achetez en grande quantité, c'est-à-dire certains poissons en conserve, le maquereau, les sardines, ça reste pas cher en conserve et ça vaut et c'est une extrême grande quantité en protéines. Voilà, mais Frédéric, je connais ce problème, c'est la raison pour laquelle on avait fait des menus à pas cher sur le programme. Saber me demande si je suis toujours Guy Carlier. Sur Instagram, il n'y a pas besoin. Hein. Guy, maintenant, est arrivé à un poids où vraiment, il ne faut plus que je fasse rien. Il a perdu 264 moins 90, 174 kilos. Je pense que ça va, quoi. Hein. La vraie mozzarella, on la retrouve, vous, parce que celle de chez Lidl, elle est fade. Ça reste un fromage fade, la mozzarella, mes amis. Hein. C'est, la mozzarella n'est jamais si bonne que si vous rajoutez de l'huile d'olive et du sel dessus. Ce n'est pas un fromage aussi goûtu que ce qu'on connaît. Là, j'ai acheté récemment du Saint-Félicien. Bon, voilà, c'est la cuisine marocaine, me dit Flappy, c'est un top, à condition qu'elle soit bien faite, hein, vraiment. Le parmesan ou le gruyère pour les pâtes, docteur? Alors, quand tu prends du parmesan, il est plus riche en calcium, mais il est à peu près aussi gras et à peu près la même composition que le gruyère. Donc, fais-toi plaisir avec ce que tu veux. Franchement, box shopping that. Qu'est-ce que c'est bon le mascarpone? Oui, Irène, mais le problème du mascarpone, c'est que ça reste un produit quand même très gras. C'est un des fromages les plus gras. C'est de la crème fraîche, il faut le savoir. Hein. Qui est-ce qui m'embrasse? Steph Berthaud t'embrasse, je l'adore. Stéphane Berthaud, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, un mec de grande, grande qualité. Que penser de la mascarpone? Ça y est, je t'ai répondu. Pour la famille, moi, j'ai peur de prendre du poids. Tu as raison. En fait, c'est vrai que le poids, le problème du poids, c'est-à-dire moi, je suis pas, curieusement, je suis nutritionniste, mais j'ai une approche beaucoup plus indulgente vis-à-vis du poids que la plupart de mes confrères qui ne sont pas nutritionnistes, qui sont des ayatollahs de la perte de poids. Pour moi, le poids, c'est quand on est malade, quand on se sent mal ou quand on a besoin d'être opéré, c'est une urgence, faut maigrir. Par contre, quelqu'un qui serait gros sans avoir de risque médical, sans avoir de problème particulier, sans avoir de troubles rhumatologiques, moi, c'est pas mon souci après tout. Enfin, quand je veux dire c'est pas mon souci, c'est-à-dire je suis pas stigmatisant. Cette personne, elle a qu'à faire ce qu'elle veut. C'est pas, vous savez, on est en train de voir une société qui change de dimension. Ça veut dire que les tailles des vêtements sont en train de changer parce que justement l'ensemble de la société grossit. Le surpoids, ça a été à un moment donné une forme de luxe et de richesse dans l'ancien temps parce que être gros, c'était protecteur, parce qu'on trouvait que c'était beaucoup plus beau. J'avais fait une émission de radio avec une Suissesse qui avait une image remarquable qui me disait, vous savez, les gens qui sont un peu gros prennent la lumière différemment, ce qui n'est pas faux. Et d'ailleurs, quand j'ai fait maigrir certaines personnes grosses, en termes de résultats pour la suite, ces personnes ont moins plu au public. Je pense par exemple à Sonia Dubois, je pense à Guy Carlier, je pense à plein d'autres gens que j'ai fait maigrir qui ont perdu un peu leur caractère. Donc, être gros quand on n'en souffre pas, quand on n'est pas malade de ça, quand on risque rien avec ça, quand on n'a pas de problème handicapant et qu'on n'a pas envie de maigrir, allez-y. Je suis pas, il n'y a pas un standard dans la vie. S'il y avait un standard, ça serait une horreur, quoi. C'est, tout le monde devrait être pareil. Alors, c'est peut-être la société du futur, mais c'est pas celle que j'apprécie. Ils m'ont fait une pizza sans sauce. Je sais pas s'il y a de la sauce dans la pizza, franchement, hein. Bonsoir docteur, cela s'est aggravé en problème, j'ai toujours faim, que faire? Et pour mes compulsions alimentaires, quels médicaments me conseillez-vous? Quand les compulsions alimentaires prennent une dimension flippante, ça veut dire qu'on n'arrive pas à les gérer, c'est que déjà le fait de se frustrer vis-à-vis de la nourriture est un problème parce que ça va amplifier la frustration alimentaire, parce que le besoin de manger n'est pas un besoin nourricier. Le besoin de manger correspond souvent à une attitude qu'on va avoir pour essayer de temporiser une angoisse, un stress, une anxiété, un problème qu'on a dans la tête qui nous fait du mal. Donc, il faut trouver cette raison, Marie-Madeleine. Et pour trouver cette raison, c'est les prochains chapitres du livre. En fait, chacun d'entre nous se connaît. Écrivez vos histoires, c'est ce que je vous ai fait faire. Et la plupart du temps, quand vous avez écrit vos histoires et que vous me les avez envoyées, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont mis à la fin de l'histoire. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous raconter tout ça. Une autre m'a dit, j'ai pleuré en écrivant tout ce que je vous ai écrit, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Écrivez vos histoires, racontez-les, consultez une personne de confiance à qui vous pouvez parler. Vous savez, là, je ne devrais pas dire ça parce que je ne suis pas un grand pratiquant et puis ce n'est pas mon truc non plus, mais avant, il y avait la confession chez les chrétiens. C'était pas mal, la confession. C'était un endroit un peu comme chez le psy. On pouvait raconter ce qu'on avait envie de raconter. On était sûr qu'il ne se passerait rien a priori. C'est-à-dire, personne ne vous jugerait. Ben, c'est la même chose que je vous propose aujourd'hui. Je ne veux plus voir de diététicien. Ok, ouais. La pizza sans sauce, c'est bon, non? Une végétarienne? Bah oui, si tu veux, ça ne me dérange pas. C'est du pain avec des végétaux par-dessus. Patricia, 1,6 kg, semaine 2, je suis très contente. Je n'ai pas beaucoup à perdre et je me dis que ce n'est pas le temps qui compte. Alors, dans le bouquin, quand je commencerai le bouquin, la partie de « on fait quoi finalement ?», j'insisterai sur ces trois mots dont je vous ai toujours parlé. Indulgence, patience, persévérance. Indulgence, pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez que derrière la prise de poids et derrière la demande de perte de poids, il y a une part de détresse. La prise de poids inclut une part de détresse, la perte de poids inclut de la détresse parce qu'elle entraîne de la privation la plupart du temps et ce n'est pas un exercice agréable. Persévérance parce que je ne connais personne, c'est un exercice difficile de réussir un régime. On est tous les jours confronté à la nourriture, on est obligé de manger. Donc persévérance, ça veut dire que quand, par exemple, on rééduque quelqu'un qui s'est cassé les deux jambes, si on lui dit « Ah, ben, t'as pas réussi l'exercice d'aujourd'hui, tu t'arrêtes », ben, il marchera jamais, le gars. Eh ben, c'est la même chose avec les régimes. « Ah, ok, t'as craqué aujourd'hui ? Ben, c'est pas grave, tu vas recommencer demain. » Et endurance, pourquoi ? Parce que c'est pas grave si ça dure. Le but du jeu, c'est l'objectif que vous allez atteindre et le bonheur que vous allez atteindre si vous atteignez un objectif que vous vous êtes fixé et que vous aviez raison de vous fixer également. Gloubi Boulga, le super repas de Casimir. Mais oui, c'est ça. Bonjour à tous, bonjour docteur. Est-ce vrai qu'il vaut mieux manger des fruits en début de repas pour des raisons de digestion? Kat Petrova, non, c'est des conneries. C'est des trucs que les gens racontent. C'est comme, vous savez, On m'a beaucoup parlé aussi pendant les vacances, toujours sur Insta et sur Facebook et sur YouTube, on m'a beaucoup parlé d'un livre sur la circulation du sucre dans le sang, etc. C'est bullshit, c'est des conneries, c'est un truc pour les gens qui ne savent pas. Le fameux indice glycémique, on y a cru et on en est revenu. Pourquoi? Parce que l'indice glycémique, c'est un système qui fonctionne, un, selon l'aliment, deux, selon la façon dont on le cuit, trois, selon la spécificité de l'aliment en fonction du moment où il est cueilli en ce qui concerne certains produits, quatre, en fonction des aliments qui sont consommés en même temps que lui, cinq, en fonction du temps de digestion, six, en fonction d'une susceptibilité individuelle. Ça fait trop de facteurs, donc c'est impossible à gérer. Donc c'est bullshit. Mais comme les gens sont toujours aujourd'hui encore à la recherche du système miracle pour les aider, bah dès que ça sort, dès qu'il y a un peu de buzz autour du truc, les gens y croient tous. Ça n'a jamais marché, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas gênant que vous le fassiez, mais ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, c'est la même chose pour les fruits. C'est la fameuse histoire. J'ai un de mes confrères qui a raconté à la télévision que le riz faisait grossir, qu'il m'allait manger les fruits en début de repas. Tout ça, c'est de la mystification. C'est juste pour embrouiller les gens, pour leur faire croire que derrière le système alimentaire, il y a une magie. Le système digestif est une machine industrielle qui fonctionne à merveille. J'avale, je stocke dans l'estomac, je broie dans l'estomac, j'imprègne avec du sucre, je fais passer progressivement dans le duodénum, puis dans l'intestin grêle. Au début, je récupère les nutriments fondamentaux, puis ensuite, je récupère de la flotte et après, j'élimine les résidus. C'est un outil, mais alors, on n'est pas capable de faire pareil en ingénierie, hein. Flappy trouve qu'on mange bien au Maroc, bien sûr. Ben franchement, en France, on mange très très bien. Je m'en suis rendu compte à la taille des cartes de restaurant. Bidendou, tu manges des salades de tomates quasiment tous les jours. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, c'est excellent. Bravo. La tomate est un super produit. Pourquoi? Parce que ça contient du lycopène, c'est un super antioxydant. Je stagne à 72 kilos depuis 8 jours, réinscription des bouillouts, quoi faire? Fais-toi 2 jours par semaine, Tania, de régime à 900 calories. N'hésite pas à le faire. Je me laisse aller les fins de semaine et je reprends le lundi, cela ne va bien. Écoute, si tu veux, oui, le problème, c'est quand tu cherches vraiment un amaigrissement, tu ne peux pas faire ça à répétition. Si même une radiologie est débordée financièrement, oui, elle est débordée financièrement. Il faut dire qu'elle était avec ses deux garçons qui bouffent comme quatre. Voilà, donc c'était un peu dur, hein. 12 œufs par semaine, est-ce trop? Non, Alban, tu peux y aller. Parmesan, bon produit, riche en calcium, un peu riche, mais pas moins riche que, pas plus riche que le gruyère. Bonsoir, docteur Cohen, je voulais vous remercier pour toutes vos vidéos qui m'ont beaucoup aidé dans ma lutte contre les TCA. Eh bien, c'est pas fini, c'est LEME. Moi, je mange des yaourts à 0%. Un yaourt à 0%, c'est rien d'autre qu'un yaourt duquel on a retiré les graisses. Alors, faites attention. Vous allez voir depuis quelque temps, je le sais parce que je dépiste assez vite les tendances, des articles disant que quand on trouve trop d'acides gras insaturés dans le sang, c'est-à-dire les bonnes graisses, les gens feraient plus facilement des Alzheimer. En fait, ces opérations sont la plupart du temps guidées par des industriels qui ont intérêt à faire vendre autre chose que ce que vous consommez. Donc, comme en ce moment, les acides gras saturés et toutes les huiles qui sont riches en acides gras saturés, type le coco, le palme, etc., souffrent parce que les gens s'en détachent, ils vont trouver des tas de systèmes comme ça pour essayer de vous les faire acheter. Continuez à manger des bonnes graisses. C'est bien plus protecteur pour la santé que pour le reste. Franck, comment tu gères l'émotionnel de la prise de poids? On peut peut-être parler des solutions que j'explore. On verra ça, Franck. On verra ça. J'aime beaucoup vos conseils, Val. Où puis-je trouver votre programme? Félix Zélie, tu tapes Savoir Maigrir sur ton navigateur. Tu ne peux pas ne pas tomber sur moi. Que manger au travail quand on ne cuisine pas? Le plus facile, c'est soit d'amener un Tupperware dans lequel on a mis ce qu'il fallait mettre, soit de faire des sandwichs. Le sandwich est un produit équilibré, hein. Vous avez débuté à l'hôpital Bichat comme interne au début. Avez-vous eu des nouvelles de vos anciens collaborateurs? Eh oui. Là, en ce moment, je le disais, bon, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais ça me fait plaisir. J'ai des tas de jeunes médecins qui me téléphonent depuis quelque temps pour me rencontrer, pour parler avec moi, et qui me disent qu'ils sont devenus nutritionnistes et qui me disent j'ai fait ce métier grâce à vous. Vous nous avez donné envie de faire ce métier. Vous avez vulgarisé la nutrition. Bah ouais. Et effectivement, les anciens de Bichat, je les revois. Je revois surtout mon copain Patrick Serog, qui était quasiment un frère de sang. Et les autres, ben, j'ai pas trop de nouvelles, mais je sais où ils sont tous, mais j'ai pas trop de nouvelles. Moi, j'ai une question car je suis une ado de 14 ans qui pèse 44 kilos et qui fait 1,50 m. C'est pas mal. Je suis plutôt active. Alors, combien de calories devrais-je manger par jour? Tu devrais être à 2002 à 14 ans parce que tu mesures 1,50 m. Comment faire pour en plus manger ses émotions? On mange pas ses émotions. C'est des conneries. C'est des mots. On essaye d'analyser les émotions qu'on a et on essaye de regarder quel rapport avec cette émotion ont eu des événements du passé. Et souvent, on trouve la clé là-dedans. La ricotta, est-ce que c'est mieux que le mascarpone? Vachement mieux en termes de valeur calorique. Le mascarpone, c'est un fromage gras. La ricotta, c'est un fromage plutôt maigre. Donc, c'est vachement mieux. Que pensez-vous d'une alimentation sans féculents? Ça n'a pas d'intérêt. Il faut des féculents pour nourrir le muscle, vraiment. Bonjour à Cathy Chou. Hein. Je prends du férostrate 0,68% en sirop. Est-ce que ce traitement fait grossir? Non, il ne fera pas grossir. Pas de problème. J'ai vu sur Google que ça existe une pizza sans sauce. Ça s'appelle la pizza Bianca. Oui, en général, les pizzas Bianca, c'est de la pâte à pizza. C'est de la pâte à pain qui est cuite au four. En général, on met un peu d'huile d'olive dessus. Oui, c'est bon, mais ça accompagne en général le jambon. Alimentation low carb pour combattre le diabète. Bonne idée. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Low carb, c'est sans sucre. Très bien, ou pas beaucoup de sucre. Aucun aliment ne fait grossir, aucun ne fait maigrir. Évidemment, bravo. Je fais des jeûnes de 3 jours une fois par mois. Vous en pensez quoi? Si c'est une fois par mois, j'ai pas de souci. Ça me dérange pas. Des jeûnes de 3 jours, ça me dérange pas. Symptômes d'hypothyroïdie alors que ma TSH est bon, quoi faire? Ah, c'est une question médicale. Il faut demander à ton médecin. Moi, j'ai plutôt tendance, dans ces cas-là, à mettre un peu de lévothyrox, à petite dose pour voir ce que ça donne. Comment solutionner l'hypoglycémie réactionnelle en augmentant les produits complets? Les vacances sont finies, on me demande, ben ouais, vous voyez, puisque je suis dans le nouveau travail. Je reprends un peu sur Facebook parce que maintenant que Facebook marche et que j'ai du réseau ici, c'est pas plus mal. Bonsoir du Portugal, très bien. Est-il trop, Sandy, de rajouter du fromage dans les salades type parmesan ou autre? Ben, plus tu rajoutes de fromage, plus tu rajoutes de matière grasse. C'est un peu le problème de certaines salades. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, une salade crouton, poulet, parmesan, c'est vraiment un plat complet à lui tout seul. Faut pas oublier que le fromage est un produit plus gras que la viande, que le poisson. Donc, est plus riche encore que les produits céréaliers. Donc, tu enrichis, vraiment le repas. Oh là là, Corinne, elle fait des encornés au repas, c'est un de mes plats préférés. Moi, italienne, j'ai toujours mangé en Italie des raviolis dans un bouillon de poule. Je les ai goûtés, effectivement, c'est très très bon. J'aime bien des spaghettis à la marge, je vous ai donné faim, hein, vous ne parlez que de nourriture. Pesto aux fans de carottes, ouais, pourquoi pas. Si on met beaucoup de légumes avec, c'est presque diététique si c'est al dente, comme vous le dites. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si les pâtes avec plein de légumes, c'est très bon, j'ai pas goûté. Bonsoir docteur, une petite question. Mon mari, qui pense qu'il ne faut pas manger d'œufs plus d'une fois par semaine, pouvez-vous lui répondre? Oui, je te réponds, Sylviane. C'est une vieille théorie. On pensait à l'époque qu'en réduisant le nombre de la quantité de cholestérol consommée au travers des aliments dans une semaine, on arrivait à agir sur l'hypercholestérolémie, donc l'excès de cholestérol dans le sang. En fait, on s'est rendu compte que le cholestérol du sang provient à 25% des aliments et à 75% de la capacité que nous avons à les fabriquer. Donc, ce n'était pas les œufs qui étaient en question. Voilà pourquoi on a trouvé que c'était plus avantageux de laisser manger des œufs aux gens, parce que l'œuf est un produit rassasiant. Donc, les gens mangent moins d'autres choses qui seront susceptibles, eux, de produire du cholestérol. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai répondu à la question de quelqu'un qui me disait, est-ce que 12 œufs par semaine, c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Ça va. Épinards, ricotta, c'est super bon pour farcir les raviolis. Bah oui. Est-ce que la vache qui rit est calorique? Non, mais même si c'est agréable à consommer, c'est pas un vrai fromage. C'est une spécialité fromagère. Ils ont mixé du lait j'ai oublié la recette, mais enfin bon, c'est pas vraiment une spécialité. Un fromage, c'est une spécialité mozzarella. Une spécialité fromagère. Mozzarella di bufalage, la déguste en salade, c'est pas mauvais. Oui, non, c'est même très très bon, hein. Hier, Montmartre, un monde fou. Bon, tout le monde est en vacances en ce moment. Enfin, en vacances, tout le monde était resté en France. Beaucoup de gens étaient en France. On m'a dit, j'ai des copains qui sont partis en Thaïlande, il n'y avait personne. Ma fille m'a dit qu'aux États-Unis, il n'y avait pas trop de monde. Le seul problème, c'est de l'argent, quoi. Est-ce que ça va, jeune homme? Merci, Walid, ça va bien. Pourquoi ne pas avoir mis le ton dans la vidéo de vendredi? Je ne sais pas. J'ai peut-être oublié. Non, je crois pas. J'avais pas envie de le mettre. Moi, j'aime les champignons émincés, oignons hachés et crème fraîche, revenus à la poêle et mélangés avec des coquillettes. C'est bien. C'est plutôt pas mal. C'est bien équilibré. Il manque un peu de protéines, mais c'est bien. Bonsoir, docteur Cohen. Je voulais juste vous remercier pour vos vidéos. Elles m'ont aidé dans ma lutte contre les TCA. Ben, ça fait plaisir d'entendre ça, hein, franchement, hein. Vraiment, hein. Merci Corinne, ça fait vraiment plaisir. J'ai vu que vous m'aimiez beaucoup parce que j'ai trouvé que vous étiez vachement sympa sur les Instagram et même vous étiez très délicat quand vous posiez des questions. J'espère que je ne suis pas trop invasive, etc. C'est vachement gentil. Alors, tout le monde me pose régulièrement la question de savoir s'il y a des vidéos pour grossir. Il y a deux vidéos sur YouTube qui s'appellent Comment prendre du poids. Les deux vidéos ont fait des millions de vues et j'ai eu des tas de compliments des gens qui les ont écoutées et ont fait les conseils que j'ai recommandés. Donc, tu peux y aller, Alexandre. Est-ce que la cuisine italienne est préconisée quand on a un intestin fragile, un côlon fragile? Oui, parce que justement, quand on a un intestin fragile, on essaye d'éviter les résidus et les régimes à base de pâtes sont bien. Le skyr, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est marketing? Non, c'est un bon produit. Le vin blanc fait-il grossir? Le vin blanc, c'est pareil que le vin rouge ou le champagne. Donc voilà. Il fait grossir. Enfin, tu comptes, c'est une valeur calorique comme les autres, mais il fait pas plus grossir que n'importe quel autre aliment. Faut-il éviter la cuisine asiatique? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est vachement bien. Alexandre, merci pour vos vidéos en Italie. Diabétique de type 2. J'adore le fromage. Et alors, tu peux en manger si tu es diabétique de type 2. Voilà. Je viens de te répondre sans avoir vu la fin de ta question. Ce n'est absolument pas contre-indiqué, au contraire. Ce qui serait contre-indiqué, c'est de manger des glaces en Italie. Mais le fromage, tu peux y aller. Le jus de concombre amer est bon pour le diabète? Non. Pas spécialement. Alors, je reviens sur la question du diabétique de type 2. Un diabétique de type 2 est menacé soit par son surpoids, soit par le fait qu'il soit en train de préparer un diabète de type 1. Donc, si tu es, je te réponds de nouveau quand même, je reprends ta question, Alexandre. Si tu es en surpoids, par contre, il faut maigrir parce que là, n'importe quel aliment, que ce soit le fromage qui ne contient pas de sucre ou un autre aliment, sera susceptible de te faire grossir, donc d'entraîner la possibilité de déclencher un diabète. Quelle marge d'erreur sur les balances impédance mettre? Ça dépend vraiment des balances, je ne peux pas te répondre. Je ne prends jamais de sucre que de l'édulcorant dans le café. Est-ce bon? Oui, tu peux, c'est encore des histoires de buzz à pas cher, de dire que les édulcorants, ça donne le cancer. Que devient Patrick Serog? Ben, il vieillit tranquillement, il continue sa consultation, il va bien, mais il a un peu moins la pêche quand même. Vous serez à la radio ou à la télé cette saison? J'ai rien de prévu pour le moment, je serai à droite, à gauche, un peu partout comme d'habitude, mais j'ai rien prévu et je ne suis pas très en demande justement. J'irai dans les émissions que je connais, des copains que je connais, et ça c'est normal. Hein. Merci pour vos retours. Après la rencontre du jardin du Luxembourg, j'ai pris confiance en moi. Annie, ben, c'est mon boulot de faire ça. Ça me fait plaisir que tu me le confirmes. Je fais des plats avec un peu de pesto 10 grammes pour remplacer la matière grasse. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal. Ça donne du goût à tes aliments et c'est pas pire et c'est pas mieux que les autres. Est-ce qu'il est que les autres assaisonnements? Est-ce qu'il est mauvais pour toute personne de manger plus de 60-80 grammes de fromage par jour? Mauvais, ça dépend de ton statut. Je veux dire, rien n'est mauvais, rien n'est bon. Ça veut dire, si tu as un problème de surpoids ou si tu as un problème de graisse dans le sang, peut-être qu'il faudra limiter le fromage. Mais si tu n'as aucun problème, vas-y, non, c'est pas gênant. Est-ce qu'il reste de la vitamine C dans le concentré de tomate? Oui, il en reste, Pauline. Un scandale est apparu autour de l'huile d'olive vendue dans le commerce. C'est possible, c'est possible. Il y en aura toujours des scandales alimentaires. Ça existe depuis la nuit des temps, hein. Moi, je suis intimement convaincu que le fait de comprendre ce qui s'est passé nous a fait grossir, ça aide à maigrir. Et merci Claire, c'est intelligent ça. Je mange de moins en moins de protéines animales le soir et je mets de plus en plus de légumineuses ou des œufs. Oui, c'est une tendance globale. Je vais vous poser une question. Est-ce que les œufs de mes poules sont plus caloriques que ceux du commerce? Non, Sylvie, ils sont pas plus caloriques, mais je suis sûr qu'ils sont meilleurs. J'en ai marre de faire le régime d'ici ici. Ça fait 2 ans et j'ai perdu que 16 kilos. Ben, c'est bien. 16 kilos, c'est bien. En ce moment, je fais du yo-yo. Que faire, s'il te plaît? Fais une pause, simplement. Voilà, fais une pause. La vie aux États-Unis, à bouteille d'eau, est à 1 $ et dans les restaurants à 2,50 €. C'est ce que m'a dit ma fille, mais ils achetaient ça à l'hôtel, ils se sont fait défoncer. Atteinte de sarcoïdose et en traitement avec. Mais 2,50 € pour une bouteille d'eau, c'est 2,50 €, c'est énorme. Atteinte de sarcoïdose et en traitement avec de la cortisone, j'ai pris du poids beaucoup et reperdu un peu. Faire un régime ou pas, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et quels aliments consommer de préférence? Diminution drastique du sel et régime, diminution de la valeur énergétique de ce que tu manges, mais t'as pas le choix. Et en plus, comme tu as une sarcoïdose, ça va t'aider à respirer mieux. Est-ce que tu as déjà mangé du couscous tunisien? Est-ce que tu as bien aimé? Oui, je connais le couscous marocain, tunisien, algérien. En fait, c'est pas trop mon truc. Mais je mange, mais c'est pas trop mon truc. Par contre, quand il est bon, je sais quand il est bon et quand il est mauvais. Que pensez-vous du foie de morue en boîte? Très bon produit, vitamine A, vitamine D et oméga 3 même, le lit. Très bon produit. Ma nutritionniste a le même discours que vous. Elle a peut-être été une de mes élèves, si elle est plus jeune que moi. Est-ce que le jeûne cause des carences? Oui, quand il est fait de façon n'importe comment et trop longtemps. Oui. Le problème de l'obésité sont les infections, entre autres, oui. Grosse intolérance au lactose, ça arrive, hein, comment remplacer les produits laitiers? J'aime pas les laitages végétaux. Les intolérants au lactose peuvent très bien manger du fromage. Ça leur permettra de récupérer le calcium et d'éviter de manger des laitages végétaux. On n'est pas obligé de manger des yaourts et du lait. Les yaourts contiennent des traces de lactose, mais il n'y en a pas. Par contre, dans le fromage, il n'y a pas de lactose. Bon, les amis, il est 8h05. Je viens de rentrer quand même. Je fais une petite pause. Alors, demain, je reprends les consultations Savoir Maigrir. Donc, ceux qui sont les abonnés à Savoir Maigrir, demain, 13h15, je suis là avec Lucie, je pense, et je réponds à vos autres questions. Sinon, je vous retrouve mercredi, on va dire à 19h. Donc, mercredi à 19h pour un nouveau live. Salut tout le monde, bonne soirée, bonne reprise à ceux qui reprennent, bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances, et puis reposez-vous pour ceux qui n'ont pas pris de vacances et qui ne partent pas. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et continuez à suivre Instagram, mais si vous avez encore des histoires à me raconter, n'hésitez pas, vraiment. Ça me rend vraiment service, hein. Salut tout le monde!